Il y a quelqu'un?
Non, il n'y a personne.
Ah bon.
Vous m'avez été tout de suite sympathique.
Hein?
Ouais, mon ami, Monsieur Duschmurtz, de Miami, visitait l'Europe avec sa Cadillac.
Hein?
C'est-à-dire le Parthénon, le mur de Berlin, le, je sais pas, les folies bergères.
Toute une civilisation.
Alors, il reçoit un télégramme de rentrer subitement par avion aux États-Unis. Son papa malade, sa maman malade.
Oh, c'est toujours embêtant, ça.
Ça peut pas faire de mal.
Donc, la Cadillac est abandonnée. Et alors, Monsieur Duschmurtz m'a demandé de la prendre en charge de Naples jusqu'à Bordeaux.
Oh, c'est un joli voyage, ça.
Eh bien, ce joli voyage, Monsieur Maréchal, c'est vous qui allez le faire.
Dites-moi, quels sont les meilleurs bouquins pour lui, pour bien connaître l'Italie?
Emportez-nous les promenades dans Rome de Stendhal. Un merveilleux guide.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ah, mais j'ai déjà acheté le Michelin.
Ça peut pas faire de mal. Les imbéciles pullulent dans mon œuvre. Il faut dire que j'aime beaucoup les imbéciles. Enfin, je les aime dans la mesure où je les invente et où par conséquent je peux les contrôler. J'aime les imbéciles parce qu'ils ont une force comique extraordinaire. J'aime leur candeur, leur ténacité, leur infaillibilité dans l'erreur, la lueur de fausse intelligence dans leurs yeux et leur sourire satisfait alors que tout s'écroule autour d'eux par leur faute. C'est donc avec enthousiasme que j'ai inventé les frères Dalton, Joe, William, Jack et Avrel, les quatre chevaliers de la bêtise. Les deux éléments moteurs du Quatuor sont Joe et Avrel. Et quand je dis éléments moteurs, cela ne veut pas dire qu'ils vont de l'avant. Ils errent plutôt dans toutes les directions sauf la bonne. Joe est le plus petit, le plus méchant et par conséquent le plus bête. J'ai concentré sur lui tous les défauts possibles et inimaginables. Il est bien sûr stupide, mais aussi égoïste, vaniteux, cruel et avide. Je me sers de lui pour prouver à quel point ses frères sont bêtes, puisqu'il l'admire, lui, le plus bête de tous. Le raisonnement est peut-être un peu vertigineux, mais la bêtise est insondable, c'est bien connu. Voici ce qui nous rassure, nous les auteurs toujours inquiets du lendemain. Les Dalton nous prouvent qu'il y a un avenir pour les imbéciles. Sans doute l'avez-vous reconnu, ces paroles sont celles d'un grand scénariste de bande dessinée, René Goscinny, qui fut le complice du dessinateur Maurice, l'inventeur de Lucky Luke. Le célèbre cow-boy fête d'ailleurs cette année son 70e anniversaire. À l'occasion de la fête du livre, qui se tient tout le week-end à la Maison de la Radio, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir au studio 105 pour une émission spéciale en direct et en public, et j'en profite pour embrasser mon fils Tado, qui est dans la salle. Comme le dit Goscinny, nous évoquerons un thème qui, hélas, a de l'avenir, la bêtise. La bêtise est-elle l'innocence de l'ignorance ou l'arrogance de la méchanceté? Car la bêtise se décline en nuances subtiles. Il y a bien sûr le gros bêta, l'âne batté ou encore le sot, le stupide, le crétin des Alpes, etc. Quel que soit le vocabulaire, une seule vérité s'impose. On est toujours le con d'un autre, n'est-ce pas? Commençons par mon maître, Molière, et avec ce fameux personnage qui incarne à merveille la sottise. Voici un extrait du Bourgeois gentilhomme. Retrouvons donc notre Monsieur Jourdain à l'acte 2, scène 4, en compagnie de son maître de philosophie. Notre bon bourgeois est un élève zélé et fort prometteur, vous allez voir. Venons à notre leçon. Ah, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses, et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Oh, ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela et vous savez le latin, sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas et expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Oh, ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oh oui, je sais lire et écrire. Ah, et par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? Mais c'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Et qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux, la seconde de bien juger par le moyen des catégories, et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures, Barbara, Scélérante, Dari, Ferriot, Balbipton, etc. Oh non, voici des mots qui sont trop rébarbatifs, cette logique-là ne me revient point. Non, apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions et, oh non, laissons cela, je suis bilieux comme tous les diables, il n'y a morale qui tienne, je veux me mettre en colère de tout mon sou quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? Oh, la physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Oh, il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillis, même uni. Non, mais que voulez-vous que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprenez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien, ce sera galant, oui. Mais sans doute, sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Oh non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Mais il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi, quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit », c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Oh, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. J'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines gens. Et c'est mon sentiment qu'en fait, comme en propos, la science est sujette à faire de grands sauts. Molière, les femmes savantes. Qu'on est sot quand on aime, c'est bien pis quand on épouse. Marivaux. Dans les salons du XVIIIe siècle, écoutons cet impromptu entre le penseur d'Alembert et la belle Julie de l'Espinasse. Nous avons abattu la forêt des préjugés. C'est sans doute pour cela que vous débitez tant de fagots. Toujours dans les salons parisiens, cet autre trait lancé par Madame la Marquise du Deffand. Il doit avoir beaucoup d'esprit, car il n'en dépense guère. À la même époque, Louis XVI convoque l'Assemblée des Notables, où siège un certain Monsieur Goblet. Le roi s'écrie quoi? Il n'y aura donc qu'un Goblet pour tant de cruches? Au siècle suivant, sous un autre régime, les Talleyrands tiennent salon. Le poète Népomucène Le Mercier y fait la lecture de sa dernière pièce de théâtre. Il dit en préambule « La scène est à Lyon ». Madame de Talleyrand se tourne alors vers son mari. « Vous voyez, mon ami, que j'avais raison. Vous vouliez que ce fût la Saône. » Un demi-siècle plus tard, cette anecdote donne raison à l'écrivain américain Mark Twain lorsqu'il déclare « Il vaut mieux garder les lèvres closes et passer pour un imbécile plutôt que de l'ouvrir et lever le doute ». La bêtise est-elle la chose la mieux partagée au monde? Les grands auteurs du XIXe siècle semblent ne pas échapper à cette règle. Balzac à propos de George Sand. Elle a l'air toujours aussi bête quand elle pense. Le Comte de Lille à propos de Victor Hugo. Bête comme l'Himalaya. Victor Hugo à propos d'Émile Zola. Tant qu'il n'aura pas décrit un pot de chambre plein, il n'aura rien fait. Et voici le mot de la fin par un grand connaisseur de l'idiotie, Dostoïevski. La Russie n'a jamais produit de ces stupides romantiques à l'allemande et surtout à la française. En pays russe, il n'y a pas d'imbéciles. C'est ce qui nous distingue des autres pays.
On ne trouve dans aucun auteur une définition convenable de la santé ou de la maladie. Moi, j'en viens à me croire malade. Toute la journée, je me demande est-ce que j'ai des douleurs.
Et je finis par en avoir.
C'est bien simple, je sais plus quoi manger. D'après notre manuel d'hygiène, toutes les viandes ont des inconvénients.
Plus un poisson est gros, plus il contient de gélatine.
Bon, les légumes donnent des aigreurs, le macaroni provoque le rhum. Moi, je sais plus quoi manger.
J'ai même lu qu'un verre d'eau pris le matin peut être dangereux.
Oui, quant au café, ça, on n'en parle pas.
Et le chocolat, il n'y a rien de plus indigeste.
Oui, bon, le thé peut-être.
Bon.
Enfin, moi, depuis une semaine, j'ai des brûlures d'estomac, c'est terrible.
J'ai des migraines terribles, hein. Terribles.
Vous avez reconnu les merveilleux Jean-Pierre Marielle et Jean Carmet dans Bouvard et Pécuchet. Donnons la parole à l'auteur, justement, qui s'est illustré dans son combat contre la bêtise, Gustave Flaubert. Dans une lettre à George Sand, l'écrivain s'écrit « Je suis effrayé par la bêtise universelle ». Voici un extrait de son célèbre roman « Madame Bovary », publié en 1856. Nous sommes au milieu des récits. Alors qu'elle a prévu de s'enfuir le jour même avec son amant Rodolphe, Emma Bovary reçoit une lettre de rupture dissimulée au fond d'une corbeille d'abricots. Bouleversée par la nouvelle, elle songe au suicide. À l'heure du dîner, elle s'évanouit et s'effondre devant son mari, Charles, incrédule. C'est alors qu'arrive leur voisin, le pharmacien Homais. Au lieu de prodiguer les premiers soins, celui-ci fait étalage de toute sa science. Charles Bovary, debout, se tenait au fond de l'alcôve, et le pharmacien, près de lui, gardait ce silence méditatif qu'il est convenable d'avoir dans les occasions sérieuses de la vie. « Rassurez-vous, » dit-il en poussant le coude, « je crois que le paroxysme est passé. » Alors le pharmacien demanda comment cet accident était survenu. Charles répondit que cela avait saisi Emma tout à coup pendant qu'elle mangeait des abricots. « Extraordinaire !» reprit le pharmacien. Mais il se pourrait que les abricots eussent occasionné la syncope. Il y a des natures si impressionnables à l'encontre de certaines odeurs, et ce serait même une belle question à étudier, tant sous le rapport pathologique que sous le rapport physiologique. Les prêtres en connaissaient l'importance, eux qui ont toujours mêlé des aromates à leurs cérémonies. C'est pour vous stupéfier l'entendement et provoquer des extases, chose d'ailleurs facile à obtenir chez les personnes du sexe, qui sont plus délicates que les autres. On en cite qui s'évanouissent à l'odeur de la corne brûlée et du pain tendre. « Prenez garde de l'éveiller, » dit à voix basse Bovary. « Et non seulement, » continua l'apothicaire, « les humains sont en butte à ces anomalies, mais encore les animaux. Ainsi, vous n'êtes pas sans savoir l'effet singulièrement aphrodisiaque que produit le nepetacataria, vulgairement appelé herbe au chat, sur la jante féline. Et d'autre part, pour citer un exemple que je garantis authentique, Bridoux, un de mes anciens camarades actuellement établi rue Malpalu, possède un chien qui tombe en convulsion dès qu'on lui présente une tabatière. Croirait-on qu'un simple sternutatoire puisse exercer de tels ravages dans l'organisme d'un quadrupède? C'est extrêmement curieux, n'est-il pas vrai? Oui, dit Charles qui n'écoutait pas. Cela nous prouve, reprit l'autre en souriant avec un air de suffisance, les irrégularités sans nombre du système nerveux. Pour ce qui est de madame, elle m'a toujours paru, je l'avoue, une vraie sensitive. Aussi, ne vous conseillerais-je point, mon bon ami, aucun de ces prétendus remèdes qui, sous prétexte d'attaquer les symptômes, attaquent le tempérament. Non, pas de médicamentation oiseuse. Du régime, voilà tout. Des sédatifs, des émollients, des dulcifiants. Puis, ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être frapper l'imagination? En quoi? Comment? Dit Bovary. Ah, c'est là la question. Telle est effectivement la question. That is the question, comme je lisais dernièrement dans le journal. À propos de Flaubert, écoutons l'hommage que lui rend un célèbre écrivain du XXe siècle. Il s'agit de Milan Kundera, dans son essai intitulé « L'art du roman ». Le XIXe siècle a inventé la locomotive. Flaubert a découvert la bêtise. J'ose dire que c'est là la plus grande découverte d'un siècle si fier de sa raison scientifique. Car la bêtise ne s'efface pas devant la science, la technique, le progrès, la modernité, au contraire. Avec le progrès, la bêtise progresse elle aussi. Ainsi, la bêtise moderne signifie non pas l'ignorance, mais la non-pensée des idées reçues. La découverte flaubertienne est pour l'avenir du monde plus importante que les idées de Marx ou Freud, car on peut imaginer l'avenir sans lutte des classes ou sans psychanalyse, mais pas sans la montée irrésistible des idées reçues.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Alors, je vous ai apporté les photos de mes plus belles pièces. La Tour Eiffel.
Superbe.
8 mois d'effort.
Ça se voit. Et vous êtes marié?
Oui, enfin, non.
Vous êtes marié, oui ou non?
C'est-à-dire que ma femme est partie.
Ah bon?
Avec un ami à moi. Un type que j'ai connu au ministère, pas méchant. Un soir, je l'ai amené à la maison et il lui a plu. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'entre nous, c'est pas une lumière.
Mais plus bête que... Enfin, je veux dire, vous êtes intelligent, vous, alors, par rapport à vous.
Écoutez, moi, je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot, c'est un con.
Mon Dieu.
Ça peut pas faire de mal.
Il s'appelle Jean-Patrice Benjamin, mais au ministère, on l'appelle du con. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire. À Benjamin, pas à du con.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Un autre écrivain s'intéresse à une forme particulière de la bêtise, plus proche cette fois de la bonté d'âme. Il n'y a peut-être pas d'imbécile en Russie, mais un célèbre idiot, né de l'imagination, vous me voyez venir, de Dostoïevski. On ne pouvait pas, dans notre inventaire littéraire de la bêtise, passer à côté de ce grand roman russe à la fin des années 1860. L'idiot, c'est le prince Michkin. D'apparence simple, il a le regard du naïf et incarne une forme d'empathie au monde. À 26 ans, on le considère toujours comme un enfant. Et on attribue sa bizarrerie aux mystérieuses crises qui l'agitent. Retrouvons le prince Michkin le jour de son retour à Pétersbourg. Il vient de passer 4 ans à l'étranger pour soigner sa maladie, l'épilepsie, qui le plonge dans un état d'hébétude. Tout juste arrivé, il rend visite à la générale Epanchine, une parente éloignée, et à ses filles, Alexandra, Adélaïda et Aglaïa, 3 jeunes femmes espiègles. Tout ce petit monde attend le prince avec une grande curiosité. Le voilà qui arrive. Il faudra absolument lui mettre une serviette autour du cou quand il viendra à table, décréta la générale. Venez, prince, vous avez très faim? Oui, vraiment très faim et je vous remercie beaucoup. C'est très bien que vous soyez poli. Et je remarque que vous n'êtes absolument pas cette originale qu'on nous a présentée. Asseyez-vous ici. Je veux vous avoir en face de moi.
Alexandra Adelaïda, c'est vrai, n'est-ce pas, qu'il est loin d'être aussi souffrant. Même la serviette, il pourra s'en passer, peut-être. Prince, on vous mettait une serviette au cou quand vous étiez à table ? Avant, quand j'avais 7 ans, je crois que oui. Mais aujourd'hui, d'habitude, quand je mange, je mets ma serviette sur mes genoux. C'est bien. Mangez, prince, et racontez-nous. Où êtes-vous né ? Où avez-vous grandi ? Je veux tout savoir. Eh bien, parlez de n'importe quoi. Racontez ce qui vous a plu en Suisse, votre première impression. Vous verrez, il commencera tout de suite et il commencera bien. L'impression a été forte, voulut commencer le prince. Tenez, tenez, s'exclama d'impatience la générale s'adressant à ses filles. Vous voyez, il commence. Mais laissez-le au moins parler, maman, l'interrompit Alexandra. Ce prince, si ça se trouve, c'est un grand charlatan, pas un idiot, chuchota-t-elle à Aglaïa. Je me souviens que tout était étranger. Je me suis complètement réveillée de ces ténèbres. Je me souviens qu'un soir, à Bâle, quand je suis entrée en Suisse, c'est le cri d'un âne au marché de la ville qui m'a réveillée. Cet âne, il m'a frappée d'une façon terrible. Et je ne sais pourquoi, mais il m'a plu que c'en était extraordinaire. Et en même temps, d'un seul coup, c'est comme si tout s'était éclairci dans ma tête. Un âne ? C'est bizarre, nota la générale. Du reste, il n'y a rien de bizarre là-dedans. J'en connais qui tomberaient amoureuses d'un âne, remarqua-t-elle en jetant un regard agacé sur ses filles qui riaient. Ça s'est déjà vu dans la mythologie. Continuez, prince. Depuis, c'est terrible comme j'aime les ânes. C'est même une sympathie que j'ai en moi. J'ai commencé à me renseigner sur l'âne, et j'ai tout de suite acquis la conviction que c'est un animal très utile. Travailleur, fort, patient, économique, endurant. Et par cet âne, d'un seul coup, c'est toute la Suisse qui s'est mise à me plaire, si bien que ma tristesse a complètement disparu. Tout cela est bien étrange. Mais pourquoi est-ce que tu ris, Aglaïa ? Et toi, Adelaïda ? C'est très beau ce que le prince a dit de l'âne. Il l'a vu lui-même. Et toi, tu l'as vu ? T'as vécu à l'étranger ? J'ai déjà vu un âne, maman, dit Adelaïda. Moi, j'en ai même déjà entendu un, reprit Aglaïa. Et toutes les trois furent reprises par le rire. Le prince rit avec elle. C'est très méchant ce que vous faites, remarqua la générale. Ne leur en veillez pas, prince. Elles ont bon cœur. Je les chamaille toujours, mais je les aime. Elles sont frivoles, inconséquentes, elles sont folles. Mais pourquoi donc ? Fit le prince qui riait toujours. Moi aussi, à leur place, j'aurais profité de l'occasion. Et malgré tout, je prends parti pour l'âne. L'âne, c'est un homme utile et bon.
Désolé, je ne peux pas le prendre. Oh non, ne me dites pas ça.
J'ai bien examiné, il n'est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent.
Parlez clairement, docteur.
D'accord, en clair, il est incroyablement con.
Docteur, il faut me débarrasser de lui, je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile.
C'est un asile de fou, pas un asile de con. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
C'était un extrait de « Tais-toi » de Jacques Weber. Reprenons. Les Dalton, Bouvard et Pécuchet, Homais le pharmacien, le prince Michkin. N'avez-vous rien remarqué ? La bêtise serait-elle le propre de l'homme ? Et la femme dans tout ça ? La bêtise lui va si bien, c'est pas moi qui le dis. Mais un grand poète du 19e siècle, auteur d'un essai insolite, choix de maximes consolantes sur l'amour. En voici un extrait. Il y a des gens qui rougissent d'avoir aimé une femme le jour qu'ils s'aperçoivent qu'elle est bête. Ceux-là sont des vaniteux, car la bêtise est souvent l'ornement de la beauté. C'est elle qui donne aux yeux cette limpidité morne des étangs noirâtres et ce calme huileux des mers tropicales. La bêtise est toujours la conservation de la beauté. Elle éloigne les rides. C'est un cosmétique divin qui préserve nos idoles des morsures que la pensée garde pour nous, vilains savants que nous sommes. Vous aurez reconnu les conseils cosmétiques d'un certain Charles Baudelaire. « Reprenons notre odyssée de la bêtise avec d'autres bons mots. Georges Feydeau, un jeune acteur sans esprit, qui lui disait « Depuis avant-hier, j'ai une idée qui me trotte dans la tête. Vraiment, et elle ne s'ennuie pas toute seule. » Jules Renard, à propos de Sarah Bernard. « Elle a l'air intelligente quand elle écoute des choses qu'elle ne comprend pas. » Georges Clémenceau, à propos du maréchal Joffre. « Il ne suffit pas d'un képi galonné pour transformer un imbécile en homme intelligent. » La comtesse de Chevigny, à propos des lettres qu'elle recevait d'un certain Marcel Proust. « Il nous emmerde avec ses gribouillages. Débarrassez-moi des dadonades de Strasser. » Le poète Tristan Tzara. « Regardez-moi bien. Je suis idiot. Je suis un farceur. Je suis un fumiste. Regardez-moi bien. Je suis comme vous tous. » Sacha Guitry, à propos d'Yvonne Printemps. Son sommeil était de beaucoup ce qu'elle avait de plus profond. L'écrivain Robert Musil, si la bêtise ne ressemblait pas à s'y méprendre, au progrès, au talent, à l'espoir ou au perfectionnement, personne ne voudrait être bête. Marcel Pagnol, quand on fera danser les couillons, tu ne seras pas assis à l'orchestre. François Mitterrand, à propos de son premier ministre en 86. « Quand Chirac vient me voir à l'Élysée, il monte le perron avec ses idées et il redescend avec les miennes. » Maurice Béjart, « La phrase la plus sotte de la langue française, c'est bête comme ses pieds. » Raymond Devos, « Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. » Paul Léoto, « Je n'ai jamais eu de chance avec les femmes. Il est toujours arrivé un moment où leur bêtise a dépassé mon amour. » Pierre Desproges, quand on est plus de quatre, on est une bande de cons. Et toujours Desproges, la littérature est à la civilisation ce que la queue est à la casserole. Quand il n'y en a pas, l'homme a l'air con. Citons enfin Jean-Michel Ribe et Jean-Marie Gouriot avec leur célèbre Bref de comptoir. C'est un iceberg, celui-là. 7 fois plus con que ce qu'on voit. On est habitué au bruit des bottes, mais attention, faut faire attention, parce que le Front National, ils mettent des chaussons. Me faites pas chier avec le rêve américain. S'ils rêvent, c'est qu'ils dorment.
J'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement inutile, c'est tout. La Croix-Rouge, ça me demande de faire des gants à 3 doigts. Alors dites, vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles ?
Mais bien sûr, bien sûr. Mais Thérèse, si je peux me permettre... Une bonne paire de chaussettes et hop.
On s'est fier tout de même. Hein.
Bon, on dit de ces bêtises quelquefois.
Oui.
L'inégalable, le Père Noël est une ordure. Allons faire un petit tour du côté de la comédie, donc. Car la bêtise, on le sait, est l'un des ressorts préférés des dramaturges. Je vous propose de redécouvrir pour le plaisir l'ouverture d'une fameuse pièce de Feydeau, On purge bébé, un classique du genre. La scène se passe dans le cabinet de travail d'un industriel du nom de Follavoine. Notre bon bourgeois consulte attentivement un dictionnaire quand la bonne fait irruption dans le bureau. Voyons, ils hébrident. Zut, entrez, quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est madame qui me demande monsieur. Eh bien qu'elle vienne, si elle a me parlé, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, elle peut pas se déranger. Vraiment ? Eh bien moi non plus, je regrette, je travaille. Bien monsieur. En fait, dites donc vous, monsieur. Par hasard, les hébrides. Comment ? Les hébrides. Vous ne savez pas où c'est ? Les hébrides ? Oui. Ah non, non. C'est pas moi qui range ici, c'est madame. Quoi ? Quoi qui range ? Oh, les hébrides, des îles bougredignard, de la terre entourée d'eau, vous savez pas ce que c'est ? De la terre entourée d'eau ? Oui, de la terre entourée d'eau, comment ça s'appelle ? De la boue ? Mais non, pas de la boue, c'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah. Eh bien, les hébrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Ah oui, c'est dehors. Ben naturellement, c'est dehors. Ah ben non, non, je les ai pas vus. Oui, bon, merci, ça va bien. Mais il n'y a pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas ? Oui. Et je sors si peu. Oui, ben c'est bien, allez retrouver madame. Oui, monsieur. Elle sait rien, cette fille, rien. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école ? C'est pas elle qui a rangé les hébrides, je crois, parbleu. Zébrides. Oh, c'est extraordinaire, je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu. Mais de zébrides, pas plus que dans mon œil. Oh, si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. On trouve rien dans ce dictionnaire. arrive Julie Follavoine, l'épouse de monsieur, avec son fameux saut de toilette. Alors quoi ? Tu peux pas te déranger, non ? Oh, je t'en prie, n'entre donc pas toujours comme une bombe. Monsieur est occupé. À quoi je te le demande ? Eh bien, des choses. Je cherchais Ils et Brides dans le dictionnaire. Ils et Brides ? T'es pas fou ? T'as l'intention d'y aller ? Oh, si tu crois que ça m'intéresse, ah bien, je te jure, si c'était pour moi, c'est pour bébé. Il vous a de ces questions. Où sont les hébrides ? Est-ce que je sais, moi ? Tu sais où c'est, toi ? Bah, c'est dans les aides que t'as cherché ça ? Hein ? Bah oui. Dans les aides, les hébrides. Ah bien, je te crois que t'as pas pu trouver. Quoi, c'est pas dans les aides ? Il me demande si c'est pas dans les aides. Bah, c'est dans quoi, alors ? Ah, oh, porcelainier, va. Tiens, tu vas voir comme c'est dans les aides. Ébrasé, ébre, ébréché, c'est dans les E, voyons. Ébriété, ébroïcien, Tiens, comment ça se fait ? Quoi ? Ça n'y est pas. Je suis pas fâché, toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. En tout cas, j'ai cherché dans les E, c'est plus logique que dans les Z. Oh là là, c'est plus logique dans les E. Et pourquoi pas aussi dans les H ? Dans les H, dans les H. Qu'est-ce que ça veut dire, dans les H ? Mais au fait, dans les H. Pourquoi pas ? Mais oui, hébride, hébride, il me semble bien que oui, H-H-H. Quoi, H-H-H ? Hèbre, hébreu, hébride. Mais oui, voilà, hébride, ça y est. Écoutons à présent un scénariste pour qui la connerie a été une source d'inspiration inépuisable et dont on retient cette célèbre réplique. Je parle pas aux cons, ça les instruit.
Coup de semonce, j'entre en piste. Tu réponds à mes questions, tout va bien, tu réponds pas, je t'attache au radiateur et je te file un projecteur dans la tronche.
Alors là, excuse-moi, mais dans la connerie, c'est pas pour me vanter. Entre Foinard et moi...
Il y a des aristocrates et des parvenus, dans la connerie comme dans le reste.
À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici ?
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Est-ce que tu peux être con ? T'es même pas con, t'es bête. Tu sais rien, tu vas jamais au cinoche, tu te tiens au courant de rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents.
Monsieur Hinault, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paraille.
J'envoie un mec cette semaine.
À quoi que je le reconnaîtrais ?
Un beau brun, avec des petites bacantes, grand, l'air con.
Ça court les rues, les grands cons.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait assez, bon.
Adjoint Le Gris, vous n'êtes pas outrecuidant, vous êtes con comme un adjoint. Notez bien que c'est normal. Si vous étiez une lumière, vous ne seriez pas adjoint, vous seriez inspecteur.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
Je me présente, François Flutio. Je suis étudiant et je vous cherchais.
Pourquoi ?
Parce que vous êtes un imbécile.
Bah alors là, si vous croyez m'apprendre quelque chose...
Alors, n'oubliez pas que selon ma théorie, vous n'êtes pas un idiot, vous êtes un imbécile.
Ah, c'est pas pareil. Ah
non, c'est très différent. Un idiot, c'est un crétin. Tandis qu'un imbécile, c'est quelqu'un d'intelligent.
Quoi ? Cohabiter avec des loques du pareil pendant 60 heures ? J'ai mieux le cyanure.
Des smigards, des tarés.
Des anards à la mort moelle-neuve.
Des brise-miches.
Eh bien, des vats de la gueule, des mégalos.
Mais surtout des cons ! Mais alors là, les dessus de cheminée, des médailles d'or, des Oscars.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
Vous aurez reconnu Michel Audiard. Traversons l'Atlantique, allons en Amérique, où la bêtise a aussi sa place, avec quelques pages d'un roman qui a connu un immense succès, La conjuration des imbéciles, de John Kennedy Toole, écrit au début des années 60. C'est l'histoire d'Ignatius, un garçon d'une trentaine d'années qui vit chez sa mère. D'une érudition hors du commun, il se caractérise par un égocentrisme extrême qui déborde de son corps énorme et de ses propos à tendance réactionnaire. Retrouvons ce jeune misanthrope, un peu crasseux et toujours coiffé d'une casquette de chasse verte, chez eux, rivé à l'écran de télé. Pendant ce temps, M. Mancuso, un agent de police débonnaire, rend visite incognito à Mme Riley, la mère d'Ignatius. En t-shirt et bermuda, le visage dissimulé sous une fausse barbe, il arrive en motocyclette dans ce quartier populaire de la Nouvelle-Orléans. Madame Riley l'accueille dans la cuisine. « Oh, c'est vous !» dit Madame Riley. « Venez, entrons, je m'en vais vous faire une bonne petite tasse de café. » Ça vous dérange pas que je mette ma barbe sur la table? Il fait plutôt chaud ici et ça me colle à la figure. Mais bien sûr, vous gênez pas, mon vieux. Tenez, prenez un bon beignet à la confiture. Je les ai achetés tout frais ce matin. Ignatius, ce matin, il me dit comme ça, il me dit « Maman, j'adore les beignets ». Regardez, il en reste quelques-uns. Elle tendait à l'agent de police Mancuso une boîte à gâteaux déchirée et huileuse qui semblait avoir souffert des tentatives de quelques hideux gloutons pour avaler tout son contenu d'un seul coup. Au fond de la boîte, l'agent de police Mancuso trouva deux morceaux de beignets en piètre état et qui, à en juger par leur rebord trempé, avaient été sucés et vidés de leur confiture. « Non, merci bien, vraiment, Madame Riley. J'ai fait un gros repas à déjeuner. » Oh, c'est dommage. Ignatius adore les beignets. Il est au salon en ce moment même, il regarde la télé. Et chaque après-midi, c'est pareil, il regarde cette émission de danse des jeunes. Il n'aime pas du tout ce programme, mais il ne veut pas le manquer. Je voudrais que vous entendiez la manière qu'il cause de ces pauvres gamins. « Oh mon Dieu !» beugla Ignatius à l'autre bout de la maison. « Quelle remarquable insulte au bon goût !»« Faites pas attention à lui, » conseilla Madame Riley au policier qui avait sursauté. « Il fait ça tout le temps quand il regarde la télé. » « Puis-je en croire mes yeux? Suis-je vraiment le témoin d'une perversion aussi totale ?» vociféra Ignatius dans le salon. « Les gosses qui passent dans cette émission devraient tous être gazés, » dit-il en pénétrant en chemise de nuit dans la cuisine. Puis il aperçut le policier et dit froidement « Ignatius, tu connais Monsieur Mancuso, dis-lui bonjour. Je crois effectivement l'avoir déjà vu quelque part, » dit Ignatius. Et il se mit à regarder par la fenêtre en attendant que son lait chauffe. « Reste-t-il du café ou as-tu donné tout ce qui restait à ce masque de carnaval ? Déjà que ce programme télévisé me met toujours les nerfs à vif, ce qu'il y a d'ironique avec cette émission, disait-il au-dessus du réchaud, c'est qu'elle est censée servir d'exemple, oui, d'exemple à la jeunesse de notre pays, quelle débauche ! Je me suis toujours douté que la démocratie aboutirait à ce genre de résultat. » Il versa très soigneusement le lait dans sa tasse préférée à l'effigie de Shirley Temple et poursuivit ses élucubrations. « Faudrait imposer un gouvernement fort à notre pays avant qu'il ne se détruise lui-même. Les États-Unis ont besoin d'un peu de goût et d'essence. Je crains que nous ne soyons en train de tituber au fond du gouffre. » Ignatius plongea la main dans la boîte à biscuits. Il repartit en ondoyant en direction de la télévision, la semelle de ses nu-pieds claquant à chaque pas contre la plante de ses gigantesques pieds. « Oh, qu'est-ce que je vais faire avec un fils pareil ?» demanda tristement Madame Riley à l'agent de police Mancuso. « Il a un cœur de glace, ce garçon. Il y a des fois, j'ai un sacré cafard tout de même. Je bois bien un petit coup de temps en temps, ça soulage. » « Moi, personnellement, je me laisse jamais abattre. Ce que je fais, c'est d'aller aux boulignes. » Madame Riley tenta d'imaginer le petit agent Mancuso avec une grosse boule de boulignes au bout du bras. Il dit « Ah, oh, ça vous plaît, ça hein ?» Oh, le bowling, c'est une merveille, Madame Riley. Ça vous occupe complètement l'esprit et à autre chose. J'aimerais bien avoir quelque chose comme ça pour m'occuper, moi aussi. Bah, vous devriez essayer le bowling. Oh là là, je suis trop vieille pour m'amuser avec ces boules. Non, je me tordrais les reins. Maman, est-ce que tu comptes faire la causette avec ce monsieur pendant tout le reste de l'après-midi ? Demanda Ignatius en pénétrant de nouveau dans la cuisine avec force claquement de savate. Il serait temps, je crois, que tu commences à me préparer quelque chose à manger. Il est temps que je me sauve, dit l'agent de police Mancuso. Non, Ignatius, tu devrais avoir honte, dit Madame Riley avec colère. Tu as été méchant toute la journée, tu te fiches de moi, tu te fiches de tout. Vais-je devoir supporter ces attaques personnelles alors que je suis chez moi et en présence d'un étranger, affublé d'une fausse barbe par-dessus le marché et d'une motocyclette déglinguée qui fait peur à tout le quartier ? Si vous ne partez pas, dit-il à l'agent de police Mancuso, j'appelle la police. Mais c'est lui la police, imbécile. « Tout cela est absurde, dit Ignatius. Je retourne dans ma chambre. » Et ses savates se remirent à claquer.
« Ah, écoutez, monsieur, partez sans histoire. Ici, c'est une maison tranquille. »«
Et honnête !»«
Honnête. Seulement par quoi des juifs dans un établissement public, hein ?»«
Mais je n'en crois pas. Elle me rend service. »«
Ah, parce que tu l'exploites en plus. » Dis donc, j'ai bien envie de te dénoncer, moi, pour t'apprendre à vivre. Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, rien que du mou. Mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non ? Et non, t'as la rombière, la gueule en gélatine et sans doux. Trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. 50 ans chacun, 100 ans pour le loup, 50 conneries.
Où est-ce qu'il va chercher tout ça ?
Chacun a droit à ses cons. Moi, j'ai les miens, c'est des bons. Sont constants, profond, c'est des experts, ils ont un don. Mais les cons les plus heureux sont ceux qui baisent entre eux une fois par an pour être féconds. En somme, ils baissent comme des cons. Si la race des cons n'est jamais éteinte, c'est que la mère des cons est toujours enceinte. Au fil des saisons, la garce prolifère, elle pond les petits cons dans tout l'univers. Si elle s'en était doutée, elle se serait faite avorter. Mais eût-elle su, par un scanner, s'il vient Jeanne d'Arc ou bien Hitler? Qui peut penser pondre un con, même si tant d'autres le font? Y'a pas marqué sur le fœtus s'il sera coté à l'Argus. Si la race des cons n'est jamais éteinte, c'est que la mère des cons est toujours enceinte. Le paradoxe est que le con croit que c'est les autres qui le sont. Donovide et un vrai con raisonnent tous deux la même façon. Pour prouver qu'il n'est pas bête, il a son site internet. Là, ils échangent avec d'autres faux la diarrhée de leur cerveau. Si la race des cons n'est jamais éteinte, c'est que la mère des cons est toujours enceinte. Au fil des saisons, la garce prolifère, c'est pourquoi les cons remplissent l'univers.
La mère des cons de Pierre Perret. Une phrase d'un grand savant, Albert Einstein, à méditer en cette époque. Triste époque où celle où il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome.
C'est évident que cet homme va mourir d'un instant homme. Oh. Mais on sent aussi qu'il a envie de dire quelque chose, qu'il a envie de prononcer une ultime phrase. Or, il est très important de mourir sans dire des conneries. Car mourir sans dire des conneries, c'est la seule vraie différence entre l'homme et la bête. Allez-y, mon
frère. Je meurs. Mais je quitte cette vallée de larmes.
Oui, ben voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est nul. C'est nul, je meurs sans... Madame, je suis sûr que vous-même, vous n'êtes pas capable de répéter ce qu'a dit votre mari avant de mourir.
Bah non, parce que j'étais faire pipi, alors j'ai raté la fin.
Il faut donc à tout prix éviter les platitudes. Moi, je sais pas, à votre place, j'aurais dit quelque chose comme... Quelle journée, là?
Dimanche, puisque papa est mort.
Oui. Eh bien, j'aurais dit quelque chose comme... mourir un dimanche, c'est un peu mourir deux fois.
Oh, oui, ça, c'est joli.
Donnons le mot de la fin à un grand talent comique. Vous avez reconnu Pierre Desproges, l'une des voix les plus célèbres de France Inter, qui officiait dans les années 80, ici même, dans ce studio. Voici un extrait du fameux sketch La Gloire. Le public se fait une idée imprécise du sentiment de félicité grandiose ressenti par un personnage public, c'est-à-dire moi, pas vous, quand il est reconnu dans la rue. Cependant, le personnage public se doit de rester humble et lucide face au légitime engouement dont il est l'objet. Ainsi, me promenais-je radieux jeudi dernier au rayon lingerie des Galeries Lafayette, à l'heure du déjeuner, méditant sur la vanité des choses. J'allais d'un pas moyen dans ces allées exquises, dardant au-dessus de l'intouchable gynécée un œil focus d'homme d'affaires pressé, quand je vis venir vers moi un couple tout à fait insolite en ces lieux. C'étaient deux vieux et gros glébeux à trogne cuite, extradés du Bas-Poitou par quelques noces à Paris. Ils portaient sur le dos les stigmates indélébiles de 40 ans d'emplette aux Dames de France de Champfleur-sur-Yvonne. Lui arborait une capote apatride où se dandinait sa couenne. Elle, radieuse à l'aube de son troisième âge, blouboutait ses excédents dans un deux-pièces montgolfière. Gras dessus, gras dessous, ils obstruaient sans malice l'allée des petites culottes et s'imposaient à moi. Quand ils ne furent plus qu'à un pas de votre serviteur, l'opulente Coco Chanel s'arrêta pile, stoppant du même coup son Cro-Magnon qui manqua de piquer du nez dans un mannequin enguirlandé de chiffonneries noires et rouges, plus érotique que 6 semaines à Bangkok. Ah oh ben ça alors ! Ah oh ben vain Dieu ! Oh ben si je m'attendais ! Beuglait Supermolle, car c'était elle, dans l'oreille de son brontosaure à betterave. Qu'est-ce qu'il y a donc, ma vieille ? S'interloqua-t-il en regardant dans la même direction qu'elle, c'est-à-dire vers moi. En réalité, elle ne me regardait pas au sens humain du mot. C'était, comment dire, un de ces regards qu'on jette aux objets, un regard dont, à juste titre, on n'attend rien en retour, un regard pour bibelot, un regard pour l'horaire affiché dans les gares, avec en prime un étonnement majuscule, comme s'il s'était agi des horaires du train fantôme. « Qu'est-ce qu'il y a donc, ma vieille ? Bah, tu vois donc pas celui-là ? » insista-t-elle en le poussant d'une main vers moi. « Mais regarde donc, Raymond, ce type-là, tu vois bien qui c'est ?»« Oh non, qui c'est donc ? Mais enfin, c'est le con de la télé !» Et lui, « Oh putain, c'est le con de la télé !» Puis se tournant vers moi, « C'est bien vrai, vous êtes le con de la télé !» Avouez quand même que le con de la radio, c'est moins voyant.
Je me rends compte que la bêtise humaine est incalculable. Et plus la société se développe, plus j'ai l'impression que la bêtise augmente de volume.
Moi aussi.
Et la bêtise de la foule est aussi effrayante que celle des individus.
Peut-être pire.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Pierre Monteil, Philippe Mercher et Laure Jung-Lancré. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leïla Kourousselikoua, Perrine Malinge et Claire Tesser.
Bon après-midi et à la semaine prochaine.